Donc on fait bien d'écouter Radio Éthique, d'être sur Radio Éthique. Moi j'ai quand même des questions toujours très... je tiens mes petits postes de radio et je tiens à écouter la radio sous la douche, décidément.
Très bien.
Donc qu'est-ce que je vais faire de tout mon joli petit matériel? Je le jetterai.
Alors,
c'est fini. L'analogique, c'est entièrement fini. On peut dire, dans 6 mois, on met le pied dans le numérique, les oreilles plutôt. Ben, on va acheter son récepteur et on dit au revoir au reste.
Oui, alors la question, puisqu'on est sur Radio Éthique, je réponds avec un peu de... en réfléchissant à ce que
mais
je vais dire.
Mais pas n'importe comment. Hein.
Voilà. Pascal, il va falloir... il va falloir donner ou jeter ce récepteur qui aura fait son temps, j'allais dire. Si, mais vous pouvez le garder parce que l'AFM continuera à fonctionner. L'AFM continuera à fonctionner jusqu'au moment où effectivement les opérateurs ne trouveront plus intéressant de continuer à diffuser. Parce que, alors, la chose qui est peut-être un peu moins écologique dans cette affaire-là, à travers votre récepteur, vous allez le comprendre, c'est que pendant une certaine période, il va bien falloir assurer une double diffusion. Donc l'économie que je faisais tout à l'heure en vous disant que dans un émetteur on mettait 7 programmes. On va conserver quand même la FM aussi un petit peu. Voilà, donc je veux dire, le récepteur, vous le gardez toujours sur la douche, vous n'êtes pas obligé d'en racheter un tout de suite.
Mais est-ce que c'est pas finalement un bon moyen, avec ces histoires de récepteurs neufs à acheter, de faire consommer plus, c'est-à-dire d'inventer une nouvelle technologie en prônant et en disant que ça va être fantastique, on va avoir du nouveau contenu, etc., finalement pour dire au public, jetez votre vieux récepteur auquel Pascal tient apparemment et achetez, investissez dans un nouveau récepteur. Alors que finalement, on est sur l'ère du MP3, que le MP3, c'est une qualité audio qui est très médiocre. Et qu'aujourd'hui, on va dire aux gens, si vous voulez avoir une vraie qualité, bah, il va falloir jeter votre matériel, investir dans du nouveau matériel. Est-ce que c'est pas un peu poussé à la consommation, ça?
Alors oui, comme on pousse à la consommation pour tout un tas de produits qui sont pas forcément indispensables. Mais j'allais dire que là, en revanche, j'ai découvert chez un fabricant qui est sur le salon, ils ont des cadres photos. Comme vous l'aimez les acheter pour mettre vos photos dans votre salon maintenant, ça évite de les imprimer et de gaspiller du papier. Eh bien, ce fameux cadre inclut un récepteur à l'intérieur, numérique. Comme il a un récepteur pour le Wi-Fi et un récepteur FM. Donc j'allais dire, à travers de nouveaux produits, qui ne sont pas forcément des récepteurs de radio tels conventionnels, tels qu'on peut les connaître aujourd'hui, on va peut-être développer des plugins. En fait, bah tiens, votre carte photo fait aussi la radio numérique. Du coup, bah pourquoi pas écouter la radio en même temps que je regarde mes photos. C'est pas bête. Ça m'évite de racheter 2 appareils. Voilà un peu le côté économique que je peux tenter d'expliquer.
Sinon, à terme, en fait, la radio numérique terrestre, c'est quand même mieux. Et ça va permettre à des radios telles que Radio Éthique de pouvoir être écoutées à Paris.
Alors j'espère sincèrement que vous allez faire les démarches dans ce sens. Parce que évidemment, ça suppose que vous signalez auprès des autorités de régulation qui organisent en fait la distribution des opérateurs sur les multiplexes.
Hervé Pichard, merci pour ces premières explications limpides. Merci. Radio Éthique en direct du Salon Ciel Satis à Paris, porte de Versailles, le salon professionnel de la radio et de l'audiovisuel, et avec le lancement symbolique, mais le lancement de la radio numérique terrestre que l'on aura bientôt chez soi, donc dans 6 mois, avec Hervé Pichat de TDF qui nous a tout expliqué de la radio numérique terrestre. On est convaincus.
Presque, j'espère.
On l'aura. Manque plus que le récepteur. Voilà. Les prix vont baisser.
Et les programmes surtout. Oui.
Et avec Eric Garnier qui est responsable communication chez Alter Echo. Alter Echo, on peut dire, c'est aussi un joli pari sur l'avenir qui a été fait par son lancement à l'époque.
Donc juste pour revenir, merci Pascal, sur Alter Echo. On est une petite entreprise de 40 salariés. Ça a été créé par...
pas si petit que ça.
Par Tristan Lecomte, ouais, une quarantaine de salariés, mais on travaille avec la grande distribution aussi, donc c'est assez petit comme taille d'entreprise par rapport à ces géants-là. Donc nous, très concrètement sur notre métier, on est importateur et distributeur de produits issus du commerce équitable et de l'agriculture biologique. C'est un petit peu, on va dire, la définition classique de notre activité. Au-delà de ça, la mission principale d'Alter Echo, c'est vraiment de défendre un modèle économique différent qui soit pas basé sur, on va dire, la rémunération du capital ou sur la maximisation du profit, mais plus sur des valeurs qu'on partage tous en interne et sur tout simplement la juste rémunération des producteurs avec lesquels on travaille, la valorisation de leur travail et le respect de l'environnement.
Voilà, Alter Echo, ça sait bien ce que ça veut dire, c'est l'autre économie. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément marginale, ils font vraiment quelque chose. En fait, vous êtes importateur des produits labellisés Max Avelard, importateur en France, le principal importateur de ces produits.
Exactement. Alors, pour reprendre brièvement sur Max Havelaar, effectivement, Max Havelaar, c'est une association.
Une
grosse association qui est au niveau international. Et la structure française a été créée il y a à peu près 10-15 ans maintenant.
En 1992, j'ai vérifié.
En 1988
aux Pays-Bas, en 1992 en France.
Exactement. La structure originelle est effectivement des Pays-Bas et en 92 en France. Donc on commercialise des produits qui sont labellisés Max Havelaar, donc qui portent cette garantie commerce équitable. Max Havelaar garantit que les critères du commerce équitable sont bien respectés. Donc il y a un cahier des charges particulier avec un prix minimum à respecter en fonction des matières premières, avec une obligation de préfinancement, etc. Donc on a décidé effectivement de suivre le cahier des charges Max Havelaar, mais d'aller aussi au-delà en prenant en compte les problématiques environnementales et les problématiques, on va dire, de protection de la biodiversité par exemple.
Hervé Pichat, quand on est passionné de radio, et notamment de radio numérique terrestre, est-ce que l'on mange du chocolat équitable?
Oui, alors en tous les cas, je suis sensibilisé et un peu interrogatif sur tout ça, parce que comme je ne suis pas un spécialiste, je vois bien que ça s'organise autour. Équitable, pour moi, ça m'a pas trop parlé dès le départ. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à être équitables entre eux, tous ces braves gens? Donc j'allais dire que...
Vous pouvez réagir vite, Eric Garnier.
Pourquoi ils sont inéquitables?
Alors,
je suis un consommateur et en plus un baby boomer, donc j'allais dire je cumule. Voilà, je cumule vraiment toutes les tares. Et quand on me dit équitable, je vois un label AB, je me dis ben ils ont appris, c'est le début de l'alphabet, il vaut mieux commencer par quelque chose. Mais derrière, je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir. Sincèrement, c'est aussi sombre que pour vous la radio numérique, j'allais dire.
Le commerce équitable est encore moins organisé que la radio numérique. On n'est pas sorti du bois, on est quand même sur Radio
Éthique. Je ne sais pas. En matière de consommateur, j'ai quand même un peu du mal à m'y retrouver.
Alors, je vais peut-être répondre un peu à Hervé Pichat sur la nécessité de mettre en place on va dire des échanges un peu plus équitables.
Sur quels produits d'abord? Il y a du chocolat, il y a du café,
Il y a de plus en plus de filières. Il y a du chocolat, il y a du café, il y a du riz, il y a du thé, il y a du sucre. Donc, c'est principalement des matières premières qu'on ne trouve pas chez nous et donc qu'on importe. Il faut savoir que ces matières premières alimentaires...
Il n'y a plus tellement de riz en Camargue, de moins en moins malheureusement, de plus en plus de moustiques.
Donc les matières premières alimentaires au niveau international sont échangées comme n'importe quel produit, donc elles sont soumises aux fluctuations des cours de bourse. Et c'est important de garantir aux producteurs un prix stable pour pouvoir couvrir les coûts de production. Il faut savoir que la plupart du temps, les acheteurs, donc principalement les grands traders au niveau international, achètent les matières premières en dessous du coût de production. Donc il y a un vrai enjeu pour rémunérer dignement les producteurs, pour leur permettre, un, de couvrir ces coûts de production, et deux, de dégager une marge pour pouvoir vivre décemment. Donc il y a cette notion de prix minimum qui est importante pour garantir un revenu stable et durable, et il y a aussi forcément un engagement de la part des importateurs qui sont sur le secteur du commerce équitable de contractualiser sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver les producteurs sans clients du jour au lendemain. Donc il y a cette notion de prix minimum, la notion de préfinancement des commandes qui est important puisque c'est un préfinancement que nous chez Alter Eco on a choisi de faire à taux zéro, donc on va pas faire d'intérêt là-dessus, et il y a aussi la notion d'accompagner les producteurs sur le long terme.